Donc nous sommes au troisième épisode de l'histoire du monde. On a vu la datation du Big Bang. On a vu donc qu'il n'y avait aucun problème entre la datation scientifique actuelle qui donne 13,9 milliards et la Torah qui dit 6 jours. On a posé la question en fin de dernier cours. Tout ça est valable tant qu'effectivement nous sommes dans les 6 premiers jours de création avant que le système cosmique se mette à marcher tel qu'il marche aujourd'hui. Alors on peut dire qu'il y a deux référentiels, le nôtre aujourd'hui, qui nous donne 15 milliards d'années, 13,9, et le référentiel Torah, qui parle de la réalité à l'époque, qui est celle de 6 jours. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque les deux référentiels se réunissent? Comme on a pris l'exemple de notre frère jumeau qui part dans une navette spatiale avec une vitesse extrêmement rapide, et pour lui, un voyage de 24 heures signifie pour son frère jumeau qui est resté sur Terre un voyage de 1000 ans. Tout cela est bien joli parce qu'ils sont dans deux systèmes de matière différents. Un vole très vite à une vitesse voisine de celle de la lumière, et l'autre reste ici sur Terre. Qu'est-ce qui se passe lorsque la navette spatiale revient sur Terre? Là déjà, nous sommes dans le même référentiel. Donc, il n'est pas possible que nous découvrions dans les fossiles, dans les restes humains en tout cas, des vestiges plus vieux que 5765 ans. Or, tout le monde connaît Lucie, l'homme de Néandertal, etc. Alors, la première solution, il y a aussi plusieurs solutions à cette objection, est que nous avons, d'après les textes de la Torah, une autre tranche de temps dans l'histoire où, d'après nos sources antiques, et je précise bien antiques, on parle bien avant Darwin, on va citer ici le Midrash Rabba qui est écrit au 3e siècle de l'ère chrétienne, recité aussi par Rashi il y a 900 ans, comme quoi il y a eu une période de 1 an durant laquelle le système cosmique a fonctionné autrement. On parle du déluge. 1 an de déluge. Après le déluge, Noé sort de l'arche de Noé, fait un sacrifice à Dieu, et le texte, je vous lis ici dans la Torah, donc Genèse, c'est fin de chapitre 8, Noé fait le sacrifice à Dieu, et Dieu dit, dorénavant, je n'aimerais plus de déluge sur terre. Et Kol Yemei Haaretz, tous les jours de la terre, il y aura Zera Vekatir, Kor Vachom, Kaitz Vachorev. Ce sont les 6 saisons. Des saisons de 2 mois chaque fois. La saison des semences, celle de la récolte, celle du froid, celle du chaud, l'été et l'hiver. Veyom Valaila Loishbotu, et le jour et la nuit ne s'arrêteront pas. Donc on aura de nouveau les saisons. Oh, très bien. Viens ici, Rachid sur place. Le Midrash, voici ici, je vous montre la page du Midrash Rabba. La source, c'est donc la Paracha 25, l'alinéa 2 du Midrash Rabba, écrit au 3e siècle, je rappelle, de l'ère chrétienne, donc il y a 1700 ans, qui nous dit, vu que le texte a dit « Loish botu », dorénavant, ils ne vont pas s'arrêter. T'entends par là, qui se sont arrêtés ?« Hamazalot lo shimshu » durant le Maboul, comme ça dit Rabbi Yochanan, lo shimshu hamazalot kol otan shtem masachodesh. Durant ces 12 mois, mazalot, le mazal, c'est le système cosmique, n'a pas fonctionné. Il y a eu une autre réalité cosmique. Donc on avait dit que chaque fois qu'on a une réalité cosmique différente, telle que champ de gravitation, telle que vitesse de déplacement dans la matière, ça développe une dilatation du temps. Ici, d'après nos sources d'il y a 1700 ans, tu as une époque qui était pour Noé dans l'arche, c'était 12 mois, mais dans la réalité universelle, était tout à fait une autre échelle de temps. On dit qu'il n'y a pas de saison. Alors vous savez très bien, hein, qu'est-ce qui provoque les saisons? Si je prends ici, j'ai le soleil, j'ai ici la terre, il faudrait ici
un crayon,
merci beaucoup pour le crayon. Voici ici la terre, l'axe nord-sud. L'axe nord-sud, il est penché par rapport à la perpendiculaire des rayons de soleil sur la Terre, penché de 23 degrés. Ce qui fait que, si ça c'est le soleil, ça c'est la Terre, ici nous sommes en été, hémisphère nord. L'hémisphère nord est plus exposé côté soleil, les nuits sont moins longues, vu qu'il y a une exposition qui est plus grande sur le soleil, et il fait plus chaud. Maintenant, nous sommes bientôt au mois de juillet, au Brésil, il fait froid, c'est l'hiver. Après, on passe à l'automne, après, hiver. Hiver, qu'est-ce qui se passe? C'est le contraire, l'hémisphère nord, qui est moins exposé côté soleil, a des nuits beaucoup plus longues, et moins exposé, donc fait plus froid. Et au contraire, au Brésil, c'est le carnaval. Rio de Janeiro, c'est l'été. Pour nous, c'est l'hiver. Là-bas, c'est l'été. Donc, les saisons sont provoquées par l'axe 23 degrés de la Terre par rapport au rayon du soleil. Or, les scientifiques, j'ai lu ça il y a quelques années dans un article de Science et Vie, nous disent que cet axe, actuellement, il bouge un peu, il balance. Et il se peut, disent les scientifiques, qu'il n'y a pas tellement de temps, il était à zéro. Mais s'il était à zéro, alors il tournait, la Terre tournait à une allure ahurissante, des milliers de tours par jour. Or, le texte nous dit que durant la période du déluge, il n'y a pas eu de saison. Donc c'était à zéro. Donc ça tournait des milliers de tours par jour. Donc il est certain que... Et en plus, le texte nous dit, le système cosmique a fonctionné autrement. Donc on a ici une tranche d'une année dans l'histoire qui, d'après nos sources antiques, bien avant Darwin, bien avant Einstein, nous dit qu'il y avait ici une période de temps différente. Donc dès lors, il n'y a plus aucune question. Parce que je trouve maintenant un os de dinosaure, il se peut qu'il date des 6 premiers jours de la création, donc ça, on n'a aucun problème, parce qu'on a déjà une autre échelle de temps. Il se peut qu'il provienne de avant le déluge, et donc il y a aussi ici une autre échelle de temps. Juste entre parenthèses, y a-t-il des traces dans le Talmud d'animaux, merci pour le crayon, aussi grands que le dinosaure? Alors dans le traité Svarim, page 113, là-bas, le Talmud pose une question... c'est dans le verso de la page 113, pour une question extraordinaire. Il dit, il y a un animal qui est géant, grand comme une colline, qui s'appelle le Re'em. Resh Aleph Mem, le Re'em, grand comme une colline. Un Midrash, une fois que David Ameller, qui s'est endormi sur une colline, après il y a tout coup, ça s'est mis à bouger, c'était le dinosaure. Bon, c'était un Re'em. La question se pose dans le Talmud. Vu que Noé devait amener des... mâles et femelles, des couples d'animaux de chacune des espèces. Donc il devait aussi faire entrer un monsieur et une madame, Re'em, dinosaure, dans l'arche de Noé. Or si on prend l'arche de Noé, elle faisait 300 amotes, ça fait 150 mètres de long, sur 50 amotes, ça nous fait, sur 25 mètres de large, impossible de faire entrer un couple de dinosaures là-dedans. C'est terminé, tu mets deux dinosaures dans l'arche, ça fait glou 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 glou. Question que pour ce Talmud, alors comment fait Noé pour faire entrer des dinosaures dans l'arche de Noé? Très bien, réponse du Talmud, il a fait rentrer des bébés Re'em, fallait y penser. Ils venaient de sortir des ventres de leur mère.
De toute façon, c'était un miracle de faire rentrer tout ça.
De toute façon, c'est un miracle. Mais quand même, faire rentrer un dinosaure, c'est pas un miracle, c'est un super miracle, extraordinaire. Ils ont fait rentrer, donc on voit, c'est extraordinaire. Donc le Talmud nous parle d'une réalité d'animaux géants qui étaient à l'époque antidiluviennes et diluviennes, qui ont dû être sauvés aussi à l'époque de Noé. Dès lors, on n'a plus aucun problème au niveau de la datation donc des animaux et des êtres humains. Si les êtres humains qui sont des êtres humains, Lucie, on la date de 300 millions d'années, alors on n'a pas de problème au niveau de la datation. Là, je parle maintenant d'un autre sujet, qui est celui de l'idée extrêmement répandue, comme quoi l'homme descend du singe, le singe descend de l'arbre, ou d'accord, bon, tout vient par hasard, comme ça, au cours de milliards d'années, l'évolution, tu parles deux acides aminés se rencontrent, ils vont former lentement une molécule d'ADN, et après ils vont faire une molécule plus complexe, et fournir une cellule, la cellule va faire, une cellule elle a une fonction nutritive, et aussi d'expulsion, alors ça va aller, ça va se développer, au beau jour t'arrives à l'être humain. Donc nous sommes le résultat du hasard. Il faut savoir qu'il n'y a aucune preuve. Darwin, ça n'a jamais été qu'une théorie, on n'a pas de preuve de cela, c'est une théorie. Au contraire, plus la science avance, plus la théorie de Darwin devient insensée. Darwin lui-même a dit à son époque, ma théorie ne peut expliquer le phénomène de l'œil. Parce que je peux encore comprendre qu'on a une fonction primaire nutritive. Tu as une cellule, elle absorbe des choses, elle rejette d'autres. Avec le temps, des milliards d'années, la sélection naturelle, l'évolution, on arrive à changer une cellule qui a ses parois plus ou moins hermétiques qui se nourrit et qui expulse, à un tube digestif qui se nourrit et qui expulse. Ok, ça je veux bien, admettons. Mais l'œil, aucune cellule ne voit. Comment par hasard un œil se met à voir? Il faudrait que simultanément, par hasard, tellement de choses aient lieu, il faut qu'il y ait une volonté derrière, c'est pas possible. Darwin lui-même, donc l'instigateur de la grande théorie de la sélection naturelle, dit « moi je ne peux pas expliquer l'œil ». Et aujourd'hui, c'est bien plus que cela. Je vous cite ici quelques petites citations, avant de voir ces choses très intéressantes, si on a le temps. Beaucoup de choses intéressantes à voir. Là, je vous cite ici une citation de l'encyclopédie Bordas, en 1994. Sur le titre « Sélection naturelle, théorie postulant le maintien des variations favorables et l'élimination des variations défavorables au cours de la transmission des caractères d'une génération à la suivante ». Ceux qui tiennent le coup, qui sont forts, ils tiennent la route, les plus faibles disparaissent, théorie. C'est posé par Charles Darwin en 1859, dans une population où ils échangent des gènes, etc., etc., et il conclut « La sélection naturelle, en éliminant les mutations les plus défavorables, est surtout conservatrice et ne peut expliquer l'évolution des espèces ». Tu peux expliquer que le fort reste, le faible disparaît, mais que le faible, le fort, tout à coup, il se change d'œuf, il fait un âne, et l'âne devient un bœuf, et le bœuf devient un serpent, qui change en grenouille, qui fait un être humain, on ne peut pas expliquer une chose pareille. Une autre citation ici, Professeur Monti, Université de Pérouse. À l'époque de Darwin, on pose des questions. Ok, très belle la théorie, mais est-ce qu'il y a des preuves? Il dit oui, regardez, il y a des fossiles. On voit, je trouve un fossile de serpent, après je trouve un fossile d'oiseau, c'est très simple, le serpent, il y a des petites ailes qui ont poussé, et lentement il s'est mis à voler, devenu un pigeon. Ok, très bien, mais alors, trouve-nous s'il te plaît des traces dans les fossiles. Il dit, ok, on vient de trouver, on est en 1859, on a découvert que quelques dizaines de fossiles, attendons, je suis convaincu que dans l'histoire, on va découvrir beaucoup d'autres fossiles. On a découvert des centaines, des millions d'autres fossiles, oui. Pas un seul fossile de ce qu'on appelle les chaînons manquants, les étapes intermédiaires. La vérité, on a découvert en fait deux. Deux qui ont été découverts dans le domaine d'un paléontologue allemand, dans son jardin, et 20 ans plus tard, son propre fils aussi a découvert dans le même domaine, aussi un deuxième fossile, d'un ptérodactyle, d'accord, une sorte de serpent ailé, qui ont été achetés pour une fortune par le British Museum de Londres, et durant des dizaines d'années, les paléontologues ont demandé au British Museum de Londres de bien leur donner, leur prêter ces fossiles pour qu'on les analyse. Le British Museum de Londres refuse obstinément. Dernièrement, il y a quelques années, ça a paru d'un contraste, le British Museum a accepté et la supercherie a été découverte. Entre le corps du serpent et les ailes, il y avait des traces de colle. Les deux paléontologues allemands ont fait beaucoup d'argent. Il n'y a pas de fossiles de chaînons manquants. Plus que cela, on a découvert, je ne sais pas si vous allez pouvoir sur la caméra voir ici, mais vous allez voir ici, il parle ici, voilà, on a une espèce originelle qui va donner, avec le temps, des lézards et des tortues. À la base, ils ont la même espèce originelle préhistorique. Il manque tous les chaînons manquants. On change les fossiles, on trouve à part les lézards et les tortues, un troisième, les ichthosauriens. Parce que c'est peut-être les iguanes, d'accord? Les ichthosauriens. Nous disent les scientifiques, mais ça amplifie le problème. Parce qu'avant, il manquait que toute la série de chaînons manquants qui amenaient à la tortue et qui amenaient aux lézards. Maintenant, il manque en plus toute la série qui amène aux ichthosauriens. Parce qu'il faut remonter encore plus bas, plus en arrière dans le temps, et trouver encore plus de chaînons manquants qui manquent. Donc, plus on avance dans l'histoire, plus on découvre des chaînons manquants. Où sont-ils, Mr. Darwin? Il y a quelques années, ça a paru dans le journal Le Monde, à l'époque où c'était Bill Clinton qui était président des États-Unis, l'État du Kansas a voulu interdire dans les écoles d'initier les enfants dans le programme éducatif, dans le programme éducatif, l'interdiction d'enseigner Darwin. Pourquoi? En disant on n'a pas le droit d'enseigner un mensonge à nos enfants. Ce n'est pas de la science. La science, tu dis une théorie, il faut prouver. Si ce n'est pas prouvable, ça reste de la théorie. Théorie, on peut dire n'importe quoi comme théorie. T'as des preuves? Il n'y a pas de preuves. Mais Clinton a mis son veto, il dit non, on doit enseigner les deux, qu'ils aient le choix. Un État entier, pas au Vatican ou en Chine, je ne sais pas où, je vous parle maintenant d'un État en Amérique. Maintenant, il y a un livre qui est apparu il y a quelques années en France, qui s'appelle La plus belle histoire du monde. D'accord ? J'ai pas de pourcentage. C'est un interview d'un journaliste français de trois grands noms de trois domaines différents de l'histoire antique. Hubert Reeves, c'est l'astronomie, la cosmogonie, d'accord, l'astrophysique, comment le monde a été créé. Joël de René, c'est un chimiste. Et Yves Coppens, c'est un paléontologue. Alors Yves Coppens, c'est lui qui a découvert Lucie. En 1874, ils ont découvert Lucie. Et là-bas, il raconte la chose suivante. Donc au début du tiers du livre, qui est l'interview de Yves Coppens, alors l'intervieweur pose la question suivante. L'homme ne descend pas du singe, mais d'un singe, n'est-ce pas ? Exactement, il répond. Il est issu d'une espèce qui fut l'ancêtre commun des deux lignées, celle des singes supérieurs d'Afrique d'une part, celle des pré-humains, puis des humains d'autre part. L'homme n'est donc pas un singe au sens large que du point de vue de son rangement dans la classification animale. Sa spécificité est précisément d'avoir réussi à dépasser cette simple condition. C'est pas un singe normal, il descend d'une sorte de singe. Qui était-ce ? Néandertal. On a découvert un être laid, au crâne surbaissé, à la basse boursouflée, aux arcades sourcilières surdéveloppées en forme de visière. 10 000 ans savants n'ont alors pas cessé d'accabler ce pauvre air. Les uns ont prétendu qu'il n'était qu'un individu arthritique et poilu. Selon d'autres, il ne pouvait émettre qu'un seul nom, Hugues. Inutile de dire qu'il a fallu de nombreuses années pour qu'on l'accepte dans notre famille, tout au plus comme un lointain cousin. À l'époque, c'était inadmissible que le descendant de l'être humain soit cet horrible être, l'homme de Néandertal, notre ancêtre, messieurs. L'ascendant de notre ancêtre, le premier, d'où nous venons. Ok. Manque de bol vraiment, dommage pour tous les croyants ancêtres, des croyants, c'est des grands croyants, pas de preuves. Je vous cite ici le quotidien Libération du 12 juillet 1997. C'est plus, première page, c'est plus spectaculaire, plus merveilleux encore que l'atterrissage du Pathfinder sur Mars. C'est là la preuve. Qu'est-ce qui s'est passé, messieurs, le 12 juillet 1997, qui est encore plus spectaculaire que la première satellite qui a atterri sur Mars ? Celle que Chris Stringer, paléanthropologue au Musée d'Histoire Naturelle de Londres, comme tout aficionado de l'homme de Néandertal attendait. Celle qui, depuis plus d'un siècle, faisait défaut, autorisant les débats les plus chauds. Grâce à la génétique, non. C'est non. Néandertal, cet homme préhistorique vedette, ne fait pas partie de notre famille. Nous n'avons, hélas, il a raison de dire hélas, rien à voir avec cet homo au gros cerveau, aucun lien de parenté avec ce musclé face au Rambo, apparu il y a cela 100 000 ans et mort sans descendance aucune il y a 35 000 ans. Mais comment en être si sûr ? C'est après que des lustres à se jeter les fossiles à la figure, des années à mégoter sur toutes sortes de détails anatomiques, une équipe allemande dirigée par Sven Tepabo et Matthias Krings a réussi à extraire de l'ADN de Néandertal. Nous l'avons d'abord séquencé, puis avons comparé les paires de bases qui la composent avec celles de l'ADN de 1500 individus modernes, des échantillons venus du monde entier. Aujourd'hui, nous sommes formels. L'ADN de Néandertal était vraiment très différent du nôtre. On ne peut plus s'imaginer descendre de lui. Il n'y en a plus. Alors d'où on vient ? Et Lucie, et l'Australopithèque, et tout cela qui sont des demi-singes, demi-hommes. D'où ils viennent ? Parce que t'as les singes, t'as l'Homo sapiens, mais entre, il y a ces sortes de gens bizarres là. L'ADN dit, nous on vient pas d'eux, mais eux alors d'où ils viennent ? Alors écoutez, il me faut de nouveau ton... Je vais faire ici un petit graphique. On va dire comme ça qu'on a en bas les singes, en haut l'Homo sapiens. On a le temps, on a la préhistoire, pré-H et HM, histoire moderne. D'accord ? On a ici un graphique. Vous pouvez suivre, la caméra suit. Singe, Homo sapiens. Préhistoire, histoire moderne. Bon, Tout le monde est d'accord qu'en préhistoire, on trouve des singes. On met des singes. Personne n'est d'accord dans le monde scientifique de dire qu'à la préhistoire, on a un Homo sapiens. L'Homo sapiens, il arrive à l'époque moderne, l'histoire moderne. Ok ? Maintenant, les singes, on fait des singes. Il y a des singes encore aujourd'hui. N'est-ce pas ? Une partie des singes, les plus évolués, ont commencé à se performer, elles sont plus performants, sont devenues Lucie, qui est entre le singe, Homo sapiens, au début de l'histoire, en fin de préhistoire, début de l'histoire moderne. Ok, on va faire ici un petit pointillé. Viennent les paléontologues et disent une chose qui est tout à fait arbitraire, basée sur rien. L'Homo sapiens descend de Lucie. Ils font un petit pointillé tout à fait arbitraire, hypothétique. C'est une hypothèse, peut-être vraie, peut-être fausse. J'ai une autre hypothèse à proposer, tout aussi peut-être arbitraire, peut-être vraie, peut-être fausse. Le singe a été créé singe, il a fait des singes. L'homme a été créé homme, le premier homme, ce que dit la Torah, et a créé des hommes dont nous sommes les descendants, d'où vient Lucie. Une partie des hommes est devenue Lucie. Hein ? Tout aussi farfelu et arbitraire. Comme un demi-singe peut devenir homme, un homme peut aussi devenir demi-singe. Pourquoi tu choisirais plus cela que cela ? 50-50, moitié-moitié. C'est pas tout à fait vrai parce que la nature, elle tend plus à la désorganisation. Tu prends un champ, tu jettes des graines, tu fais rien, il n'y a rien qui se passe. Il faut labourer, il faut bien sûr ensemencer, il faut enlever les mauvaises herbes, les pesticides, engrais, il faut travailler pour que ça donne des fruits comme il faut. On sait que l'organisation ne se fait pas comme ça. Mais admettons, 50-50. J'ai un point en plus, qu'est-ce que j'ai ? Nous fous ça, nous. J'ai ici le Midrash. Je retrouve tout de suite. Où est-il passé ? Midrash Rabba, écrit, je rappelle, il y a 1700 ans. Bereshit Rabba, chapitre 23, alinéa 6. Adam, Chet, Enoch. On parle des générations après le premier homme. Première génération, Adam. Deuxième, Chet. Après, Enoch, Veshatak. Après, on ne dit plus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Amar. On a dit, Adkan, Betzelem, Udmut. Jusqu'à là, ils ont été créés, tous avec Tzelem et Dmut, à l'image du premier homme. Mikan, Ve'elach. Après cela, Nidkelkelu, Adorot. Les générations se sont gâchées. Venimberu Kintorin ont été créés Kintorin. Qu'est-ce que c'est Kintorin ? Nous disent ici les commentateurs Shenaasu Kekofim sont devenus comme des singes. Vous me direz non, mais les commentateurs ont été peut-être influencés par Darwin. Alors, continue le Midrash et dit Venaasu Pnehem Kekofot. Et leur face est devenue comme des singes. Ça veut dire 1700 ans. Alors, allez dans les bibliothèques de Oxford, de München, vous trouvez là-bas le Midrash Rabba, vieux d'il y a des siècles au moins, 7-8 siècles. Nous savons, ça date d'il y a 1700 ans. Personne ne me reste en question, tous les plus grands historiens archéologues sont d'accord là-dessus. Il y a 1700 ans, on nous dit qu'une partie de l'humanité se comportant comme des animaux mâles, Dieu les a transformés en demi-singes. Qui était Lucie ? Une dévergondée préhistorique. Qui aime bien les Beatles. Pourquoi ? Parce que Lucy, c'est Lucy in the Sky with Diamonds. D'accord ? Ils écoutaient cette chanson parce qu'ils ont découvert Lucy. On n'a aucune preuve. Au contraire. Regardez, je recite ici le découvreur de Lucy. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Chose stupéfiante. C'est là. Et je pense qu'on finira avec cela. Demande le journaliste, qu'est-ce qui reste mystérieux dans ce scénario des origines de l'homme que nous venons de parcourir ? Donc, en quelques dizaines de pages, ils ont parcouru l'histoire de l'homme. Comment du singe, on devient être humain ? Il répond, Yves Coppens. Le grand mystère, c'est la manière dont procède l'évolution. Dans un milieu qui change, les animaux et les hommes sont capables de se transformer pour s'adapter à de nouvelles conditions climatiques, comme s'il y avait à chaque fois l'échantillon de mutation adéquat pour que le bon choix puisse se faire. Je prends un autre exemple pour expliquer cela. Il parle ici auparavant, l'autre journal, c'était l'autre, c'est comment il s'appelle, Joël de René. Il dit, il explique un cas de sélection naturelle. Prenons par exemple des moineaux à gros bec, qui se nourrissent exclusivement de petits vers nichés dans les trous des arbres. Ils sont tellement nombreux et actifs qu'ils finissent par éliminer tous les vers qui se trouvent à la surface des écorces. Sans nourriture, la majorité de l'espèce meurt. Donc les moineaux, ils vont avec leur gros bec et ils mangent tous les petits vers qui sont nichés dans l'écorce des arbres. Et vu qu'ils mangent tout à la fin, ils meurent tous de faim, parce qu'il n'y a plus de vers, donc ils meurent de faim. Mais une petite partie d'entre eux possède, à cause de mutations survenues par hasard, un bec pointu plus long que les autres. Donc eux, ils survivent. Ces descendants peuvent, eux, aller chercher des vers dans des trous plus profonds. Ils résistent mieux à la pénurie. Résultat, cette lignée s'impose. Au fil des générations, la majorité de l'espèce possédera un bec plus long. Cas classique de l'évolution. Ceux qui ont sont défavorisés, ils ne tiennent pas le coup. Ceux qui ont déjà, par hasard, un bec plus long, tiennent la route. La question se pose, d'où vient ce par hasard du bec plus long? L'autre, Yves Coppens, répond. Il dit, c'est quand même bizarre, c'est mystérieux, pour reprendre les termes du journaliste, comme s'il y avait à chaque fois l'échantillon de mutation adéquat pour que le bon choix puisse se faire. Toujours, maintenant, ils font un long bec, tac, par hasard, il y a l'échantillon qui a un long bec. Demain, faudra la girafe, un animal qui a un long cou, tac, et par hasard, c'est qu'il y avait un long cou. Toujours par hasard, dans l'être humain, il y a la bonne espèce qui est là pour encore résister et continuer. L'évolution procède certainement par la sélection naturelle. Et d'accord, la sélection naturelle, elle existe. Contrairement à ce que dit le Bordas. D'accord, le Bordas dit que la sélection naturelle ne peut pas en aucun cas expliquer l'évolution. Mais là, lui, il dit que oui. Ils ne sont pas d'accord entre eux, Marloquette, ça arrive. Mais suffit-elle pour expliquer une si merveilleuse adaptation des êtres vivants au changement de leur environnement? Lui-même, il dit que ce n'est pas possible. Comment ça se fait que toujours par hasard, il y a le bon échantillon qui correspond? La sélection naturelle, elle peut expliquer ça un peu. Mais suffit-elle pour expliquer une si merveilleuse adaptation des êtres vivants au changement de leur environnement? Celui-ci, cette adaptation, induit-il plus directement des changements génétiques? Est-ce qu'on peut dire que par hasard, comme ça, on induit, on fait qu'il y a un changement génétique? On le comprendra peut-être dans quelques temps. Rétorque le journaliste. Diriez-vous que notre histoire a un sens, une logique, ça veut dire Torah, qui est un créateur, c'est lui, la nature, Dieu qui guide? Je ne peux que le constater. Les êtres vivants d'aujourd'hui sont plus complexes que ceux qui vivaient il y a un milliard d'années. Et pour ma part, je ne crois ni à la contingence, ni au hasard, qui ne semble apparaître que lorsqu'on étudie une très courte durée. Tu prends une courte durée, il y a eu du hasard. Mais tu prends maintenant toute l'histoire, un milliard d'années, ça ne tient pas la route. Cela voudrait-il qu'il faudrait concilier la conception scientifique de notre origine avec celle des religions, par exemple? Ce n'est pas incompatible. La science, finalement, ne fait qu'observer. Elle ne peut être dogmatique. Elle sait bien que la réalité est toujours plus complexe. La science, celui qui a découvert Lucie, nous dit, je ne peux pas dire que tout est comme ça par hasard. Pour moi, il y a ici une direction. Je crois ni à la contingence, ni au hasard. Il y a une main directive. Donc je pense qu'en cela, les choses sont très claires, et on a réglé le compte, Ezrat Hashem, de l'homme descendant du hasard, descendant du singe. Nous sommes créés, et il y a un sens à la création. Merci, on attend vos questions. Ceux qui sont intéressés à envoyer des questions, vous pouvez toujours envoyer sur le site. À très bientôt.